Radio Kapi.
Réfléchir sur les mécanismes à mettre en œuvre pour faire profiter l'Afrique de ses atouts économiques afin de booster son développement dans l'unité des États, c'était l'objet de la dernière journée hier à Entebbe en Ouganda de la troisième conférence interparlementaire africaine sur les défis mondiaux émergents. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a pris part à cette rencontre pour le compte de la RDC. Hier, dans une église en plein culte, un militaire de la force navale a abattu 3 personnes. Le drame s'est passé à Banana, au niveau de kilomètre 5 dans la province du Congo central. Le présumé criminel a été battu par la population de ce quartier, puis acheminé à la base de Kitona. Professeur Jean-Paul Tsassa, économiste spécialiste des mathématiques et économie quantitative, est l'invité de ce journal. Pour lui, les mathématiques sont un langage avant d'être un outil. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. Clôture hier dimanche de la troisième conférence interparlementaire africaine sur les défis mondiaux émergents, le président du bureau de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a défendu la souveraineté de la RDC sur ses ressources naturelles. En effet, la dernière journée de la troisième conférence a été consacrée au thème « La protection de l'économie africaine et la souveraineté des ressources naturelles, défis mondiaux et perspectives ». Réfléchissant sur les mécanismes à mettre en œuvre pour faire profiter l'Afrique de ses atouts économiques afin de booster son développement dans l'unité des États, le président de l'Assemblée nationale a interpellé les pays africains sur le rôle charnière que doit jouer une République démocratique du Congo en paix. Vital Kamerhe est au micro de Michel Kifindangoy.
Il est incontestable que depuis l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, on ne peut pas se targuer d'une bonne gouvernance à la République démocratique du Congo. Nous sommes aussi d'accord que les contrats, par exemple, que nous avions signés avec la Chine, il fallait effectivement 12 millions de tonnes de cuivre, 625 000 kilos de cobalt, contre un montant qui représentait au total 9 milliards. On les a pas eus. Nous sommes conscients que nous avons beaucoup de ressources naturelles et ces contrats chinois qui avaient été signés à l'époque du président Joseph Kabila a commencé à connaître des corrections sous Tshisekedi. Et on a pu récupérer 15 milliards de dollars. Il est établi que l'Ouganda, le Rwanda, Burundi, nous pouvons vivre en paix sur base d'une coopération régionale économique bien pensée. C'est l'antidote de tous les conflits que nous connaissons en République démocratique du Congo. Et je conclue en disant que l'Afrique doit aimer l'Afrique.
Dans la province de la Lomami, la Trust Merchant Bank, Tembe, agence de monnaie d'Itou, a été scellée depuis mardi dernier par la Direction générale des recettes de Gerlo. Cette régie financière provinciale déplore le non-paiement non évalué de l'impôt sur les revenus locatifs par la Tembe. Du coup, les étudiants de l'université de Monnaie d'Itou se disent bloqués pour payer les frais académiques. Une solution vient d'être trouvée ce lundi, nous dit Esther Dalafina depuis Mbujimayi.
Les portes de la TMB, agence de monnaie d'Itou, sont fermées depuis le mardi dernier. Explication de Justin Chibalakata, chef d'antenne de la DGERLO, monnaie d'Itou et Kamiji.
C'est le non-paiement de l'impôt sur les revenus locatifs. Nous avons les textes légaux qui nous donnent ce pouvoir-là de sceller tout redevable de l'impôt sur les revenus locatifs. La TMB est notre client, comme tous les autres, une institution qui est locataire d'un bailleur quelconque. La TMB a le devoir de payer l'impôt sur les revenus locatifs qui est un impôt rétrocéder à la province.
Cette situation affecte plus les étudiants de l'université de Monnaie d'Itou qui doivent payer les frais académiques au niveau de la banque. Quelques étudiants affirment que l'université vient d'ouvrir ce lundi un bureau au niveau de la comptabilité pour percevoir les frais académiques. Mais cela inquiète les étudiants.
Auparavant, on payait à la banque. Actuellement, maintenant, nous payons à la comptabilité de l'université et que nous ne recevons pas encore ces bordereaux-là. Comme on a les récits de paiement, si la personne peut rendre ce reçu-là, il n'aura pas vraiment la possibilité de le récupérer pour justifier qu'il avait vraiment payé.
Contacter le gérant de Tembe Monnaie d'Itou, c'est réservé de tout commentaire. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Trois personnes sont mortes hier à Banana, au niveau de kilomètre 5 dans la province du Congo central, dans une fusillade en plein culte de dimanche dans une église. L'administrateur du territoire adjoint de Mwanda, Nicolas Kindwelo, qui confirme les faits, indique que l'auteur de ces meurtres est un élément de la force navale. Il a été maîtrisé et battu par la population de ce quartier avant d'être acheminé à la base militaire de Kitona sur demande de sa hiérarchie. Le récit de faits avec vous, Nana Plurich Mambo.
D'après l'administrateur adjoint des territoires de Mwanda, Nicolas Kindwelo, c'est aux environs des 13 heures que ces militaires de la force navale a fait irruption dans l'église Bethesda Ministry de la communauté des assemblées de Jésus et les chemins située à Banana à kilomètre 5. Ces militaires a demandé à voir une certaine Naomi et personne dans l'église n'a répondu à sa demande vu que c'était en plein culte. C'est en ce moment que ces militaires habitant la base militaire de Banana a ouvert le feu sur les fidèles de l'église. Deux personnes dont un bébé d'une année et une autre dame nommée Natacha sont mortes sur place. Un autre fidèle est décédé après quelques heures à l'hôpital des suites de ses blessures. Ce drame a aussi fait trois blessés qui reçoivent en ce moment des soins appropriés à l'hôpital général de Mwanda. Ce militaire a été maîtrisé puis lynché par la population de Banana. À la demande du responsable de la base navale de Banana, ce militaire sera jugé à partir de ce lundi par le tribunal militaire des garnisons de Mwanda. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Toujours au Congo central, d'autres morts. Il s'agit de 5 personnes, dont 2 calcinées dans l'après-midi d'hier dimanche dans un accident de circulation survenu dans le territoire de Kasangulu. L'administrateur du territoire qui livre cette information indique qu'il y a aussi plusieurs blessés graves ainsi que des dégâts matériels importants. Paulin Mibangaloubo indique que c'est demain mardi que le corps calciné des victimes sera inhumé. Il explique les faits au micro de Nana Plurich Mambo.
S'est produit un accident de circulation. Un véhicule Ben appartenant à la carrière Taj qui avait eu une panne de freinage est venu renverser un véhicule Nova à côté de Pont Lukaya et le véhicule a continué sa course pour tuer 5 personnes au carrefour de Kasangulu. Lui-même a pris feu qui a occasionné encore écroulement des maisons et pour éteindre ce feu, c'était très difficile. Il y a eu 3 véhicules endommagés, 5 personnes mortes sur place, 2 sont calcinées, difficile d'amener à la morgue. C'est comme ça que les 12 aujourd'hui, nous devons quand même chercher à les enterrer à temps pour éviter la putréfaction. À l'hôpital, nous avons 19 blessés.
Autre chose à présent, dans le Maniema, l'Assemblée provinciale a un nouveau président. Il s'agit du docteur Kibungi Mutanga Jr. Élu ce lundi 12 mai, l'élu de Kailo est élu avec une majorité absolue, c'est-à-dire 20 voix sur le 20 votants. Il en est de même pour le vote du questeur de cet organe délibérant, le député Hassani Noël, tous membres de l'UDPS. Docteur Kibungi Mutanga Jr. remplace à ce poste le député Makonga Toboka Iki Claude, déchu par une pétition et mise en accusation par les pétitionnaires. Florence Kizalunga.
Après les votes secrets, les dépouillements, les vice-présidents proclament le nouveau président, Théophile Bouléli Docteur.
Si les 20 honorables députés présents dans la salle, 20 ont voté pour, 0 contre, 0 abstention et 0 bulletin. Et élu président de l'Assemblée provinciale du Maniema, honorable Kibungi Mutanga Jr.
Juste après son élection, le nouveau speaker de l'Assemblée promet de travailler en toute transparence et au respect des lois. Docteur Kibungi Mutanga Jr.
Je suis comblé de joie parce que mes collègues députés viennent de placer leur confiance à ma modeste personne pour m'élire aujourd'hui comme le speaker de l'Assemblée provinciale du Maniema. Ce que je vais leur annoncer, je vais travailler en toute transparence pour le bien-être de la population du Maniema, ainsi que au respect des droits des honorables députés qui viennent de placer leur confiance à ma modeste personne. Je ne vais pas apporter des innovations, sinon nous allons continuer le travail qui avait déjà commencé parce que nous sommes à notre législature. Il y a un budget qui a été déjà voté, je compte mettre en application jusqu'à la fin de l'année.
Signalons que Kibungi Mutanga Jr. est le 4e président de l'Assemblée provinciale du Maniema. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, plusieurs organisations humanitaires se disent à court de moyens et des intrants. Par conséquent, elles ont du mal à apporter une assistance aux familles déplacées de guerre, contraintes de retourner dans leur localité d'origine. C'est dans ce contexte que la Croix-Rouge de la RDC annonce, faute de moyens suffisants, son désengagement des structures sanitaires des territoires de Masisi et Rutshuru, respectivement dans les zones de santé des Kirutshe et Rwanguba. Le secrétaire provincial de la Croix-Rouge au Nord Kivu plaide pour que l'action soit poursuivie par les organisations qui le peuvent encore. On écoute Joseph Kasongo que nous avons joint.
Depuis que les gens ont commencé leur retour, nous avons jugé bon d'aller quand même suivre certains dans certaines zones telles que Rugari. La Croix-Rouge s'est positionnée à plus de 9000 ménages pour donner les biens essentiels des ménages, la ration alimentaire pour 3 mois. Et aussi, à part les Rutshuru, nous sommes orientés aussi dans Masisi, dans Mitumbala. Et nous avons aussi assisté plus de 1800 ménages en biens essentiels des ménages. Nous avons pu aussi apporter une assistance dans les structures sanitaires, un soutien pendant 3 mois à la structure centre de santé de Chacha dans la zone de santé de Kirutshe et aussi au centre de santé Kabaya dans la zone de santé de Rwanguba, ça c'est dans les Rutshuru. Et donc pendant 3 mois, la Croix-Rouge a été là pour les soins gratuits à tout le monde qui venait consulter la structure. Malheureusement, les moyens sont limités. Là, nous sommes à bout et on est obligé de se désengager et laisser aussi, c'est un plaidoyer pour d'autres acteurs humanitaires qui pouvaient continuer cette action au sein de cette population qui reste vraiment démunie et qui nécessite un accompagnement.
Toujours au Nord Kivu, plusieurs personnes manquent encore à l'appel dans leur famille ce lundi après une série de bouclages opérés ce week-end par les services de sécurité du 123 dans plusieurs quartiers de la périphérie de la ville de Goma. Des sources locales concordantes affirment que sur une centaine de personnes appréhendées au cours de ces bouclages, seulement quelques dizaines ont pu être relâchées et ont regagné leur famille. Plusieurs autres sont en majorité de jeunes qui n'avaient pas de pièces d'identité, indiquent nos sources. La population s'inquiète de ce genre d'opérations récurrentes au Kemen l'AFC M23. Souvent, certaines personnes restent portées disparues. Le point avec vous, Jean Gandou.
D'après diverses sources, le dernier bouclage a été opéré dans 3 villages du territoire de Nyiragongo hier dimanche à l'aube. C'est notamment dans le village Rukoko, notabilité Katelengwa, mais aussi en Gangi 1 et 2, et Akieru et Murambi. Au cours de cette opération, des dizaines de personnes ont été retirées de leur domicile avant d'être regroupées au stade de KMB dimanche matin, explique notre source. Cela que le tri a été effectué. Des jeunes sans pièces d'identité ou encore robustes et portant des tatouages ont été retenus par le service du M23 qui les assimile au Wazalendo, aux éléments des FRDC ou leurs collaborateurs selon des témoignages recueillis. Une mère habitant le village Rococo nous explique qu'elle voulait se rendre à l'église hier dimanche matin lorsqu'elle a remarqué que le quartier était bouclé. Les militaires lui ont demandé de retourner dans sa maison, témoigne-t-elle. Arrivée dans sa maison, son fils de 22 ans a été pris dans le lot et jusqu'à ce lundi matin, la famille n'a pas encore eu de ses nouvelles. Cette situation inquiète grandement la population car personne ne connaît les lieux de détention de ceux qui étaient interpellés, ni auprès de quelle autorité elle peut s'adresser pour mener des recherches, rappelant que la même opération de bouclage a été enregistrée samedi à l'aube dans le quartier Ndosho et Mugunga, cinquantenaire mais aussi à l'hôpital général de référence de Kieshiro, où plusieurs personnes amenées ne sont toujours pas encore relâchées, affirment plusieurs sources.
À Butembo, un nouveau film dénommé Orphelin de Balolanda est sorti hier dimanche. Il s'agit d'un film dont les acteurs sont des enfants du club Que pensent les enfants, une structure d'encadrement des enfants de Butembo. Son principal message est le respect de la dignité humaine au regard des atrocités que subit la population de l'Est de la RDC. Guylaine Kassassia.
Les chouettes enfants, comme acteurs de ces films, Orphelins de Balolanda, reposent sur la volonté des initiateurs de ce projet d'impliquer ces derniers dans la restauration de la paix, explique l'abbé Jean-Robert Kaoma, concepteur du film.
L'idée de ce message vient du fait que la paix est la plus grande aspiration des hommes. Malheureusement, nous vivons dans un contexte dans lequel nous n'avons pas cette paix. On a besoin de la paix et on doit lutter pour la paix dans toutes ses formes. Les enfants sont l'avenir. Un adulte sérieux aujourd'hui qui rêve de cette paix qui est la grande aspiration de l'homme doit accompagner les enfants qui sont l'avenir. Voilà pourquoi nous avons choisi donc les enfants.
Cyprien Nguanké, l'un des acteurs, estime que ce film est une invitation aux enfants à revendiquer pacifiquement le droit.
En fait, moi, je me suis senti comme un patriote de notre pays parce que je dois lancer un message à nos dirigeants. Ça m'a inspiré à se révolter, mais pas comme les autres, à se révolter d'une manière juste.
Plusieurs centaines de spectateurs ont assisté à la présentation de ces films ce dimanche. Parmi eux, des autorités locales, des élèves, parents et des enfants venus des différentes structures des jeunes de la ville de Butembo. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le gouvernement sud-africain conteste ce lundi toute persécution de la cinquantaine d'Afrikaners qui ont quitté leur pays et qui doivent être accueillis dans la journée aux États-Unis comme des réfugiés à l'invitation de Donald Trump. Selon l'agence France Presse, un groupe de 49 Afrikaners descendant des premiers colons européens à la pointe de l'Afrique doit atterrir sur le sol américain après un décret de Donald Trump qui les prétend dépossédés de leurs terres et victimes de génocide. Ils ne peuvent fournir aucune preuve de persécution car il n'existe aucune forme de persécution à l'encontre des Sud-Africains blancs ou des Afrikaners, pas plus qu'ils ne remplissent les conditions pour bénéficier du statut de réfugié, a précisé le chef de la diplomatie sud-africaine Ronald Lamola lors d'une conférence de presse ce lundi à Pretoria. La nouvelle administration américaine cible particulièrement depuis des mois l'Afrique du Sud. Parmi les principaux griefs cités nommément par le président américain dans son décret coupant toute aide à Pretoria figure la plainte pour génocide visant Israël pour ses bombardements de Gaza que l'Afrique du Sud a déposé devant la Cour internationale de justice.
L'invité.
Notre invité est le professeur Jean-Paul Tsassa, économiste, spécialiste en mathématiques et en économie quantitative. Il sensibilise les étudiants et les enseignants des mathématiques de considérer la mathématique comme un langage avant d'être un outil. Professeur Jean-Paul Tsassa s'entretient avec Florence Kizalunga.
Professeur Jean-Paul Tsassa, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, avec les étudiants de l'université Mapon, dans une conférence où vous avez parlé de la mathématique et non les mathématiques, un langage avant d'être un outil.
Oui, en effet, on a voulu juste sensibiliser les étudiants à l'idée selon laquelle la mathématique devrait être traitée comme un langage avant de la considérer par la suite comme un outil. Et nous avons voulu montrer que cette petite notation, remarque, vient changer tout le reste. Puisque généralement, en économie, on est habitué à traiter la mathématique comme un outil tout en ignorant qu'elle est avant tout un langage. Donc voilà en résumé ce que nous avons présenté aux étudiants aujourd'hui.
Et c'est quoi la différence entre ces deux concepts en question?
Oui, en effet, on a voulu insister sur le fait que la mathématique c'est un langage qui est distinct du français et de l'anglais. On doit la considérer comme telle et dès qu'on établit ces principes clairs, on doit par la suite déterminer, puisque c'est un langage, nous avons dit c'est un langage distinct, on doit donc tirer au clair la syntaxe, puisque tout langage a une syntaxe et une sémantique. Donc, établir les ingrédients de base du langage mathématique, une fois qu'on aurait acquis pleinement ces ingrédients de base, voir maintenant par la suite comment l'utiliser pour faire des analyses d'ordre économique, puisque le biais de ne pas considérer la mathématique comme un langage serait d'utiliser les choses de manière mécanique, et comme vous le savez, cela peut conduire à des erreurs dramatiques.
Comment sera possible cette thèse, si je peux le dire, étant donné que les mathématiques, ce n'est pas à l'université que ça a commencé, on a commencé depuis les écoles secondaires jusqu'à l'université et aujourd'hui vous voulez quand même parler de cette nuance?
Oui, justement, c'est une bonne question, c'est un grand défi. Donc le travail que nous sommes en train de mener avec une équipe d'assistants brillants, d'ailleurs je suis avec l'assistant bien-aimé Kakisolako qui m'accompagne ici, nous voulons, bon, dans toute chose il y a toujours un point de départ. Nous avons commencé par le point de départ au niveau de l'université, mais l'idée est de voir dans quelle mesure l'étendre au-delà de la faculté d'économie, mais aussi l'étendre au niveau de l'école secondaire, de l'école primaire. Des efforts sont menés par-ci et là. Il faudra qu'on fasse un travail de réforme des fonds pour faire en sorte que la mathématique soit banalisée de l'école primaire.
Si la mathématique n'est pas considérée comme un langage, c'est là comme quoi, comme conséquence?
Oui.
Dans la vie d'un économiste en devenir.
Oui, justement, la conséquence est immédiate, c'est-à-dire que nous allons utiliser la mathématique de manière mécanique. C'est comme on vous demande de conduire un véhicule, vous savez juste démarrer et par la suite appuyer sur l'accélérateur. Et supposons maintenant que vous avez juste une petite panne, ok, mais et que cette panne demandait, par exemple, de juste changer la bougie au niveau du moteur. Mais comme vous avez appris mécaniquement à conduire la voiture, c'est-à-dire juste démarrer et appuyer sur l'accélérateur, une petite panne va vous bloquer. Et c'est la même chose avec l'économiste aussi. Donc, lorsqu'on utilise les mathématiques comme un outil, les problèmes immédiats qui émergent, c'est au niveau du raisonnement mathématique. Puisque là, vous n'êtes pas capable de tirer profit, pleinement profit, des potentiels qu'offre les mathématiques comme langage en termes de la rigueur du raisonnement. Or, vous le savez, aujourd'hui, si on parle de l'économie, elle est considérée comme une science. Ce qui fait qu'on parle des sciences économiques. Et donc, les analyses économiques doivent être rigoureuses, cohérentes. Et cette cohérence, cette rigueur vient notamment de la mathématique.
Et votre initiative ne va que se limiter à vous seul ou bien ça ira même jusqu'au niveau des ministères?
Bien, ça c'est une bonne question. Le plus important, on va débuter, on commence à faire les choses correctement. On n'est pas pressé et puis il n'est pas dit que c'est nous qui sommes les seules personnes à conduire à terme ces réformes. Ce sont des choses qui existent partout ailleurs et on a voulu juste insister pour qu'on fasse les choses dans les bons ordres. Et je pense que nous avons des assistants brillants, des étudiants brillants qui demain seront aussi des assistants de professeurs. Ils vont continuer, espérons, les dans le même élan. Donc, c'est une dynamique qui n'est pas personnalisée, une dynamique qu'on veut naturelle.
Monsieur le professeur Jean-Paul Tassa, je vous remercie.
Merci à vous également.
Merci à vous aussi qui avez bien voulu suivre ce journal qui arrive à sa fin, un journal mis en onde par Pierre Diassinois, coordonné par Élisée Chikota. À la présentation, c'était Noëlla Luzitou Kabambi.